franceinter.fr.
Bonjour. En général, on ne parle de Mayotte dans les médias qu'à l'occasion de mouvements sociaux, comme les manifestations contre la vie chère qui avaient secoué l'île il y a 3 ans, ou à l'occasion d'une visite présidentielle comme celle de François Hollande cet été. Le reste du temps, on oublie Mayotte, une île si petite et si loin, perdue dans l'océan Indien. Pourtant, il y a une certaine urgence à parler de la situation dans cette île qui pourrait devenir un jour assez explosive. Mayotte n'est pas seulement le dernier-né des départements français d'outre-mer, c'est aussi le plus jeune, et une grande partie de cette jeunesse est comorienne et sans papier. La départementalisation, il y a maintenant presque 4 ans, n'a fait que renforcer l'attractivité de Mayotte pour les populations des autres îles comoriennes, qui vivent dans une grande misère. Le flux de personnes qui viennent s'installer clandestinement sur l'île est constant et irrépressible. L'éducation, la formation et l'emploi y sont donc des enjeux majeurs pour éviter que les tensions et la violence ne gagnent, comme le week-end dernier, par exemple, lorsqu'un simple match de foot a dégénéré en graves échauffourées entre les jeunes de 2 quartiers.
Interception, le magazine de la rédaction.
Mayotte, une jeunesse en péril, c'est un reportage de Béatrice Duguay que nous poursuivrons par un entretien avec François Soulages, président d'honneur du Secours catholique.
Je m'appelle Hassan Ibrahim, je suis marin pêcheur et là on prend la bâche pour aller en grande terre. On descend en ville, à Mamoudzou, sur les capitales.
Quel âge vous avez ?
J'ai 26 ans, je n'ai jamais quitté cette île.
Et tes amis ?
Mes amis, ils ne sont pas ici mais ils sont en métropole. Du coup, pour avoir des gens comme eux ici en ce moment à Mayotte, c'est pas facile. Il y a plus de violence, il y a plus de vols. Avant, tu pouvais sortir, aller je ne sais pas où, tranquillement. Maintenant, tu ne peux plus aller je ne sais pas où. Que ce soit jour et nuit, c'est la même chose.
Et c'est dû à quoi ?
Ça dû à l'évolution qui est ici à Mayotte. C'est-à-dire, il n'y a rien pour les jeunes, il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Aucune activité pour eux. Du coup, forcément, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont plus à l'école, s'ils ont envie d'avoir des sous, ben, c'est obligé qu'ils aillent voler. C'est normal. Il faudra qu'ils aillent voler pour faire leur vie. Tu vois.
Mais la population est très jeune et très nombreuse. Elle
ouais.
augmente beaucoup.
Ouais. Par rapport à avant, ouais.
Donc ça explique aussi une partie de tout ça.
Avant, je dirais, il y a à peu près 20 ans de ça, Mayotte était tranquille. Tu vois, plus il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui rentrent ici, même si pas facilement, mais ils rentrent quand même. Tu vois, du coup, la mentalité d'avant n'est pas celle d'aujourd'hui.
Ils viennent d'où les jeunes ?
La plupart africains, grands comoriens. Mais c'est pas forcément qu'il est africain ou grand comorien, que ça soit lui qui vient foutre la merde ici. Parce que ça peut être moi et Maoré qui fout la merde, tu vois. Mais tellement tout le monde est ensemble et il y a un mélange de mentalité.
Pas de boulot.
Voilà, c'est pas de boulot.
Bienvenue à Mayotte, confetti français dans l'océan Indien, un des plus beaux lagons du monde, paradis des poissons. Paradis un peu perdu pour les hommes, si l'on en croit Hassan. Mayotte, c'est le département le plus jeune de France. Par sa date de création d'abord, il est né en mars 2011. Et par sa démographie, la moitié de la population a moins de 17 ans sur cette île minuscule. Une grande partie n'a pas de papier. Aujourd'hui, cette jeunesse s'impatiente. Éducation, logement, santé, travail. Si peu de secteurs sont aux normes françaises. Le tableau n'est pas si noir pourtant, dit Michel Alic, vice-procureur du tribunal de Mamoudzou.
À Mayotte, le premier constat, hein, c'est que c'est effectivement une population pauvre, hein, dans sa majorité, hein, pour les Mahorais, les Comoriens, les Anjouanais. Alors maintenant, effectivement, c'est un département, 280 000 personnes sur l'île. Si vous faites la comparaison avec la Corse, parce que j'arrive de Corse, c'est très simple. En Corse, il y a 280 000 personnes. Sur un territoire qui est 10 fois plus grand que celui de Mayotte. C'est un peu comme si vous mettiez les Corses et vous les rassemblez dans le Cap Corse, vous voyez, le doigt de la Corse. Eh bien, c'est ça, Mayotte. Voilà, 300 000 personnes, hein, ici, avec 60% de personnes qui ont moins de 20 ans.
Potentiellement, on peut se dire que la situation est explosive si on est pessimiste.
En principe, si on est pessimiste, la situation est explosive. Mais grâce à la qualité, mais véritablement à la qualité des traditions maoraises, je crois qu'on peut dire ça, eh bien, ça se passe bien. Alors, est-ce que c'est lié à la religion musulmane? Est-ce que c'est lié à ces traditions africaines? En tout cas, ils savent vivre ensemble sans que véritablement il y ait dehors. Moi, nous, on ne trouve pas au tribunal plus d'agressions qu'on peut avoir à Bobigny ou ailleurs. Absolument pas. Alors, il y a des difficultés, c'est vers Intervillage, là on a du mal à gérer ça ici, ce sont les jeunes, je ne sais pas pourquoi. Il y a des rivalités qui font que quand ils se télescopent, là effectivement, on a des violences assez graves. Mais globalement, il n'y a pas énormément d'agressions. Il y a beaucoup de cambriolages, c'est vrai, mais bon, quand on voit une partie de la population qui gagne quand même pas mal sa vie ici, hein, notamment les fonctionnaires, etc., quand à côté vous avez des gens qui n'ont rien, immanquablement, vous aurez du cambriolage.
Le paramètre supplémentaire, j'allais dire, qui fait amalgame probablement, c'est qu'il y a une forte immigration aussi, incessante ici.
Effectivement, la population, il fait faire un parallèle entre l'immigration, principalement joannaise, hein, avec l'insécurité, les cambriolages et tous les délits qui sont commis. Ça ne se mesure pas dans les faits. On n'a pas spécialement plus d'enjoannais en termes de délinquance que de Morée. Hein. Ah ben évidemment, énormément d'enjouanais sont en infraction parce qu'ils sont en situation irrégulière, ça c'est sûr. C'est sûr que les enjouanais dans les villages et, doivent se mettre sur des terrains et là ils sont aussi en infraction. Quand on regarde les infractions, on va dire spécifiques au droit de l'urbanisme, le droit du logement, droit de la construction, enfin, etc., etc., effectivement, là ils sont beaucoup plus en infraction qu'un Morée classique qui est en situation régulière, oui, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'à terme, il peut y avoir des tensions entre la population dite mahoraise et la population dite anjouanaise en situation irrégulière? On a eu des cas quand même, hein, dans le sud de l'île, où effectivement, la population mahoraise fait des descentes, hein, retire les enfants des classes. Ça s'est arrivé, mais bon, c'est pas général.
Ah,
on s'est
qui en fait?
Chanson préférée.
Nous sommes en chemin dans les dédales de Kaweni vers la clinique mobile de Médecins du Monde. Kaweni, c'est l'un des villages de Mamoudzou, donc un petit peu à l'écart de la ville. Voilà, donc en route pour voir la clinique mobile qui se déplace dans plusieurs villages de l'île de Mayotte.
Là, on se rapproche des Bangas. Donc c'est les habitations de fortune faites par la population qui vient principalement d'Anjouan et des Comores. Donc là sur les hauteurs, on les voit, les habitations en tôle. Donc c'est essentiellement ces personnes-là qui viennent consulter à la clinique mobile. Voilà, donc là on arrive à l'endroit où on a la clinique mobile, donc le camion à gauche. Et les mamans, elles attendent ici sous l'arbre qui est là.
Piste en terre, hein.
Ouais, c'est de la piste. Là, donc on va se mettre ici. Voilà.
Donc on est arrivé à destination avec les boîtes aux lettres des maisons dont on ne sait pas bien à quoi ça correspond d'ailleurs, cette rangée de boîtes aux lettres. Comment vous appelez-vous?
Donc je suis Marie Ferré, je suis la coordinatrice pour la mission de Médecins du Monde à Mayotte. Alors on est ici sur un quartier ancien avec différentes populations qui sont au fur et à mesure fixées sur ce territoire. Donc vers le bas on voit de l'habitat plus en dur qui va être avec des Maorais ou des personnes en situation régulière. Et puis plus on va monter, plus on va avoir des personnes en situation irrégulière et puis ça va être mélangé. Parce que dans une même famille on va avoir entre frères et sœurs et quelqu'un qui va être en situation régulière, quelqu'un qui va être français par filiation ou par droit du sol et puis quelqu'un qui va être en situation totalement irrégulière. Donc on a vraiment très difficile de poser une frontière en fait entre Maorais, non-Maorais. Et donc là, plus on va monter dans le quartier, plus on va avoir des baraques en tôle qui vont être plus ou moins formalisées, plus ou moins installées depuis longtemps. Et plus on va aller loin et derrière, on est sur des terrains semi-agricoles parce que maintenant, l'habitat a vraiment gagné partout. ou bien sur des pentes qui ne sont vraiment pas habitables, mais derrière on est encore sur de l'habitat en tôle de plus en plus précaire. Et donc les derniers arrivants sur le quartier, ils habitent très très loin et ils n'ont souvent pas accès à l'eau.
Donc là nous arrivons à au lieu de consultation, la clinique mobile dans un camion par définition aménagé, et la consultation est en cours.
Je vous présente Téfina, qui est une bénévole Bonjour. Communautaire qui travaille avec nous.
Vous venez d'où ?
Moi, je viens d'Anjon.
Ça veut dire que vous venez des Comores voisines. Est-ce que vous avez des papiers ?
Non. Je suis irrégulier.
Pourquoi vous êtes venue à Mayotte ?
J'étais toute petite et il y a ma soeur qui m'a ramenée. Et depuis, je ne suis plus retournée là-bas. Alors, j'ai même fait un petit peu de études ici. Et je me suis arrêtée à la classe de 3e. Parce que pour aller au lycée, j'ai cherché dans tous les lycées. On m'a refusé parce que je ne suis pas régularisée. Alors du coup, là, ça fait 2 ans que je suis sans école. Alors là, comme j'ai entendu parler que Médecins du Monde voulait des bénévoles, je me suis dit, je vais aller comme ça. Je vais rester à la maison sans rien faire.
Vous avez quel âge ? 20 ans ?
Oui.
Vous pensez rester définitivement à Mayotte ?
J'aimerais bien aller rendre visite à mes parents, mais comme je ne suis pas régularisée, ça me fait vraiment peur. Je suis obligée d'y rester.
Et c'est ça, parce que si vous rentrez aux Comores en juin, vous ne pouvez pas revenir, puisque vous n'avez pas de papier.
Oui.
Quel est votre moyen d'être régularisé ? Est-ce qu'il y en a un ?
Ouais, on m'a dit qu'il y en a un, comme j'ai déjà fait des études ici depuis toute petite. On m'a dit que j'ai une chance d'être régularisée. Mais là, j'ai fait une lettre et j'ai envoyé à la préfecture, mais on ne m'a pas encore répondu.
Vous avez une activité officielle de bénévole pour Médecins du Monde. Est-ce que néanmoins, dans votre vie de tous les jours, il faut vous cacher de temps en temps ?
Il faut me cacher de temps en temps parce que s'il y a la police qui contrôle, là, je suis obligée de me cacher.
J'ai cru comprendre que ce genre de situation, c'est-à-dire des personnes qui sont arrivées très jeunes et qui aujourd'hui sont en quête de papier, c'est légion à Mayotte, non ?
Et c'est vrai que la situation de Toifina, elle illustre bien ce qu'on voit nous et qui nous ronge un peu au quotidien. C'est ces jeunes-là qui arrivent très jeunes, qui sont scolarisés dans le système français, qui ont du coup un bon niveau. Enfin, Toifina, elle a un bon niveau de français, elle se débrouille bien, elle remplit les questionnaires. Enfin, voilà. Elle aurait pu continuer ses études et puis arrive le moment où la régularisation devient un verrou. Et toutes les portes se ferment à partir de 18 ans, toutes les portes se ferment devant ces jeunes-là. Et derrière, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de possibilité d'avenir, plus tellement d'identité, parce que finalement leur identité, elle est à Mayotte, mais ils ne peuvent pas la faire valoir. Et voilà, ils sont dans un no man's land de administratif et puis finalement identitaire aussi.
Et vous allez dire que la régularisation, elle passe éventuellement par un retour aux Comores, donc avec une impossibilité de revenir derrière, si ce n'est en quoi ça, en bateau.
Voilà, alors après, quand on leur demande des papiers d'identité, quand ils ont suffisamment de preuves et que le seul blocage, c'est le papier d'identité, ils vont choisir de prendre le quoi ça pour traverser le bras de mer qui est pas loin, pour aller faire ses papiers et revenir. Donc à chaque fois, il y a une prise de risque qui est assez forte de ces mamans d'enfants, parce que souvent elles sont jeunes, mais elles sont déjà mamans, pour faire avancer leur situation, quoi.
Je l'attrape par la queue, je la montre à ses messes me disent, trappez la danine, ça fera un escargot touché.
En jouant, l'île des Comores la plus proche est à 60 km seulement des côtes mahoraises. Une portée de bateaux qui d'ailleurs accoste tous les jours, ou plutôt au milieu de la nuit. Même si les gendarmes en interceptent régulièrement, ces quoi ça, ces barques de pêcheurs souvent surchargées, amèneraient environ 40 000 migrants par an. Des très jeunes la plupart du temps, attirés par ce bout de France. L'idyllique lagon vit des drames humains quand les barques chavirent par mauvais temps. Mariam et Ahmed, techniciens sociaux à la Croix-Rouge, en témoignent.
Ils peuvent arriver dans des embarcations 30 personnes ou 40 personnes, comme ils peuvent arriver à 6 ou 5 ces derniers temps, ce qu'on appelle les kwassa de luxe, où ils payent très cher pour pouvoir espérer d'arriver, parce qu'il y a moins de contrôle quand ils sont moins nombreux.
Ça veut dire aussi qu'il y a des accidents ?
Beaucoup, beaucoup de morts, beaucoup de morts, beaucoup de naufragés, donc voilà, beaucoup d'accidents. Ouais.
Il peut y avoir beaucoup de morts, notamment des familles qui vivaient ici, qui ont été expulsées, donc qui tentaient de revenir pour retrouver les enfants, ou des familles qui ont fait le choix d'aller faire leur passeport parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution que de partir et revenir en Kwassa.
Pardonnez-moi d'être un peu morbide, mais comment on sait que ces gens-là sont morts ? On retrouve des corps ?
Il y a des fois, on trouve des corps. Il y a des fois, c'est la famille, parce qu'on sait qu'une telle personne est repartie au Comore pour refaire le passeport. Mais en revenant, parce qu'en revenant, ils téléphonent toujours. Voilà, en contact. Donc, on sait que telle personne est venue tel jour. Il n'est pas arrivé pendant 3-4 jours. On sait que le Kwassa s'est chaviré. Voilà.
Est-ce que les gendarmes guettent ces bateaux ? Parce qu'on pourrait se dire que voilà, le point est connu, donc il y a contrôle.
Oui, on peut dire qu'il y a contrôle. Les gendarmes guettent, puisqu'il y a beaucoup d'interpellations. On n'a pas les chiffres là, mais il y a beaucoup d'interpellations en mer.
Il y a aussi des radars, surtout il y a deux radars qui sont au nord, donc il y a beaucoup de contrôles. Surtout il y a depuis début janvier, là, il y a renforcement de l'équipe de la gendarmerie en mer. Il y a beaucoup, ça a été renforcé.
Ces gens qui passent en clandestin, ils trouvent refuge dans de la famille, souvent, c'est ça ?
Souvent, oui, il y a une grande solidarité familiale, voisinage qui existe ici aux Comores, enfin, dans l'archipel des Comores.
Ce qui est assez drôle, c'est que ce qui nous ramène en France, finalement, c'est qu'on entend régulièrement la sonnerie des pompiers. Et on a beau entendre parler le Chimaoré, de temps en temps, il y a une sirène de pompiers qui nous ramène en France. Dans le bus, ce matin, avec Marie Ferré, coordinatrice générale de Médecins du Monde ici à Mayotte. On va où, Marie ?
Donc on va au centre pédiatrique de soins et d'orientation. Dans le quartier de Magique à Vokoropa, et c'est là où on a commencé nos activités à Mayotte, nos activités de terrain, sur la commune de Kungu, qui est la commune juste au-dessus de la commune de Mamoudzou. Ça fait partie des deux communes les plus peuplées, les plus densément peuplées en fait sur l'île. Voilà, donc c'est Mariam, la traductrice, interprète plutôt, animatrice de prévention de notre consultation. Madame Mariam Saïd.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Très bien.
Mariam, on est dans un quartier où les gens, ils ont des papiers, pas de papiers, personne n'a de papiers, c'est moitié-moitié, il y a des Mahorais, des Comoriens.
Alors,
ce quartier, c'est un quartier mixte. Donc, il y a des gens qui sont régularisés, il y a des gens qui ne sont pas régularisés. Je ne me distingue pas que moi j'ai des papiers, moi je suis Mahoraise, je ne suis pas comme ça. Les Mahorais, c'est des gens solidaires. Et cette solidarité aujourd'hui, ça se perd, puisqu'on est en train de se tirailler de gauche à droite. Avant, on ne montrait pas du doigt l'étranger. Aujourd'hui, ça se fait. Donc, je trouve vraiment dommage. Donc, moi, je ne suis pas du tout sur cette optique-là. Moi, je veux que ça soit comme avant.
Pourquoi est-ce que il y a cette crispation en ce moment ?
Parce que la population mahoraise, on ne leur a pas expliqué c'est quoi un département. Je pense que ça vient de là aussi. On a juste expliqué qu'avec le département, il y aura de l'argent partout. Mais on ne leur a pas expliqué pourquoi ça. Donc aujourd'hui, ils se disent que les associations qui se sont installées à Mayotte, ils aident que l'étranger. Du coup, montrer du doigt l'étranger est venu. Donc cette notion de vivre ensemble, de partager des choses, la solidarité, elle se perd. Parce qu'il faut savoir que, puisqu'on est tous mélangés, tout service est monnayé. Alors ça, avant, ça n'existait pas. Moi, je vois, il y a 10 ans en arrière, mon voisin n'avait rien à manger. Et moi, je travaille, j'aidais un petit peu mon voisin. C'est pas tous les jours, mais je me disais, je peux pas manger et mon voisin dormir avec la faim au ventre. Donc, j'aidais mon voisin. Aujourd'hui, je n'ai même pas ce regard-là. Je ne me retourne pas pour voir est-ce que mon voisin va bien ou pas. Aujourd'hui, ça, c'est une société d'individualisme qui est en train de s'installer à Mayotte. Mais
qui est induite par la départementalisation?
Je pense, oui.
Alors, allez, allez, c'est la police.
Accueillir dans votre permanence.
Tout à fait.
Ici,
tout
à fait. Donc à Mamoudzou, sur les hauteurs.
Et autour des jardins du collège. En fait, le collège est juste en bas.
Ibrahim Aboubakar, Mayotte est un département français, le 101e, depuis 3 ans maintenant. Néanmoins, on voit bien qu'entre un département de métropole et Mayotte, il y a un gouffre.
Il y a des différences de développement, département ou pas. Il y a des différences de développement puisque, pour résumer tout cela, nous avons un niveau de vie et un produit intérieur brut environ le tiers de la moyenne nationale et environ la moitié de ce qu'il est dans le département voisin de La Réunion. Donc à partir de cela, ça se décline dans les différentes politiques publiques d'une manière plus ou moins frappante. C'est frappant dans certains secteurs du logement et de l'aménagement du territoire. Et puis, il y a encore beaucoup à faire en termes de rattrapage sur les politiques éducatives.
Combien il manque d'écoles ici pour bien faire?
Il faudrait construire, absorber dans les 5 ans qui viennent, 400 à 500 classes pour retrouver une situation normale, entre guillemets, dans l'école préélémentaire et dans l'école primaire.
Est-ce qu'on a une petite chance d'y parvenir d'ici 5 ans ou pas?
Beaucoup d'efforts sont faits. En ce moment, sur le volet des constructions scolaires du primaire, on a une difficulté particulière qui tient à la capacité de construire les salles. Mais le chef de l'État ayant indiqué que c'est sa première priorité nationale, oui, je ne désespère pas. Et à côté de ça, il y a toute la problématique de la formation des enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sortent de ce système scolaire avec un niveau scolaire insuffisant et un niveau de qualification insuffisant, ou parfois même pas de qualification du tout.
À Mayotte, la moitié des élèves de CM2 ne maîtrisent pas ce qu'on appelle le socle de connaissances. Le taux de réussite au bac plafonne à 30% des élèves de terminale. Le chimaoré et le kibushi, qui est un créole malgache, sont deux langues orales. Le français est, pour ainsi dire, encore une langue étrangère pour les élèves comme Favela, Aruna ou Laïma, rencontrés à la sortie de leur lycée. Quand est-ce que tu as commencé à apprendre le français?
Quand j'étais au collège, à cette époque-là, il n'y avait que des blancs et tout. Du coup, je m'habituais à parler avec eux et tout. Et jusqu'à maintenant, même en seconde, j'avais aussi une groupe. Dans ma groupe, le groupe que je traînais avec, ils parlaient que le français. Et c'est là que je m'habituais et je commençais à parler le français, mais je dis pas que je sais parler le français parce qu'il y a des mots que je comprends pas et il y a des mots que j'arrive pas à les prononcer et tout. Mais quand je suis chez moi, à la maison, avec ma petite sœur, on parle le français. Même il y a des erreurs, mais ça passe.
Oui. Donc ça veut dire, sans être péjorative, que le français c'est une langue étrangère pour vous?
Disons oui, c'est une langue étrangère. Parce que nous, pour nous, on est habitué à parler le chimaoré. C'est une langue maternelle pour nous. Oui, voilà.
Et les garçons?
Moi, c'est ma langue natale. Et en fait, je comprends très bien le chimaoré, mais je ne sais pas parler chimaoré correctement.
Donc toi, c'est l'inverse, en fait.
Oui. Et le chimaoré, je crois, ça va être enlevé, ça. Maintenant qu'on est dans le département, je crois pas qu'on va continuer à parler chimaoré.
Non, ils peuvent pas, c'est notre langue maternelle, ils peuvent pas, non.
Mais non, imagine.
Bah non, ils peuvent pas.
Là, c'est un département et tout, tu vois, normal. Après, les gens, ils vont s'habituer à parler français. Après, nous, dès qu'on sera parents, nos enfants, on va leur apprendre à parler français. Maintenant, ça va changer.
Non,
le chimaoré
imagine.
Va partir de son bouché.
Sous un vide de mon avenir, je sais que j'en ai la force au fond de moi et j'avance avec espoir.
Qu'est-ce que c'est pour vous être français?
Être français, c'est comme si tu avais plus de droits par rapport aux enjoinés ou aux personnes qui sont plus. C'est comme si tu n'avais pas tes papiers, ça fait que tu as moins de droits. Par exemple, si tu as envie de voyager, tu ne peux pas. La carte d'identité pour si tu viens ici, la police, je sais pas. On dirait que tu as moins. Comment on peut dire ça? Moins de droits. Tu peux faire moins de trucs dans ta vie si tu n'as pas, ta carte d'identité, ni le passeport, les autres comme ça. Ça fait que tu n'es pas vraiment une personne. J'arrive pas à trouver le mot.
Personne à part entière?
Oui.
Ça nous donne la liberté d'aller d'avancer, dans chaque pays et d'avancer, de connaître le monde. Mais si on n'était pas français, on serait là, chercher des trucs et. Faire l'immigration, nous envoyer là-bas, ce sera des problèmes pour nous. Être français, c'est une chance de poursuivre nos rêves, en fait.
Et vous avez certainement des copains, des copines à l'école, au lycée, qui, eux, n'ont pas de papiers, qui sont enjoinés et qui sont illégaux, donc qui ont encore moins les droits que vous. Vous avez conscience de ça?
Oui.
Et qu'est-ce que tu penses de ça?
Ben, moi... J'aimerais bien qu'on leur donne de l'aide, plus que ce qu'on leur donne en ce moment, vous voyez.
Ça me fait du mal quand je vois une copine, qu'on est dans la même classe et qu'elle se débrouille. Et vu qu'elle est étrangère, et elle se débrouille vraiment pour réussir sa vie et tout. Et à la fin, elle se retrouve qu'elle a son bac et tout. Mais elle ne peut pas voyager ou bien continuer des études parce qu'elle n'a pas ce qu'il lui faut et tout pour partir. Ça me fait vraiment du mal.
L'éducation est l'une des bouées de sauvetage de la jeunesse à Mayotte. Aujourd'hui, l'illettrisme touche près de la moitié des Mahorais. Les associations caritatives se démènent pour les aider. Les apprentis d'Auteuil ont par exemple monté des centres de formation professionnelle. Le Secours catholique dispense, lui, des cours d'alphabétisation au centre Nyamba à Mamoudzou. Il accueille des jeunes, souvent sans papier, qui viennent y puiser l'espoir d'une vie meilleure. C'est là que nous avons rencontré Sonia.
Je m'appelle Sonia Tomadi, j'ai 24 ans.
Et vous venez d'où?
En juin.
Vous êtes arrivée quand sur le territoire de Mayotte?
En 2002.
Quand vous êtes arrivée ici à Mayotte à l'âge de 12 ans, vous êtes venue comment d'abord?
En quoi ça?
Quoi ça, c'est-à-dire en bateau?
En bateau.
Avec votre famille?
Non.
Toute seule? Seule.
J'étais accompagnée avec quelqu'un que voilà, je ne connais pas, j'étais gamine. Mon père, il est ici à Mayotte. Ma mère aussi, ça fait longtemps qu'elle est à Mayotte. Je suis arrivée à Mayotte, je vis avec ma mère et mon beau-père.
Une fois arrivée à Mayotte, Sonia, vous avez fait quoi? Vous êtes allée à l'école?
Si, je suis allée à l'école. Je suis allée CM1 et CM2. Et là, on m'a envoyé. On dit PPF. Ouais.
Sixième adapté, c'est ça?
Voilà. Et là, on m'a mis dehors. Et après, j'ai entendu comme quoi ici, à Mamoudzou, il y a une centre qui s'appelle Secours catholique. Je suis venue. Et ici, on apprend le français, le maths, l'anglais. Il y a aussi l'histoire. Il y a aussi le théâtre. Je suis dans un groupe de théâtre. Et voilà.
Alors Sonia, ça fait donc 6 ans que vous venez dans ce centre. Comment vous imaginez la suite de votre vie à vous?
Ben, Pour moi, j'aimerais voilà, aller loin. Aller loin, mais bon.
Aller loin, ça veut dire quitter Mayotte ?
Pas vraiment. J'aimerais aussi quitter Mayotte. Aller, voilà, c'est pas découvrir beaucoup de choses sur mes études.
Aller loin pour vous, c'est aller loin dans la société, trouver du travail, par exemple.
Travail, voilà.
Qu'est-ce que vous avez envie de faire comme travail ?
Beaucoup. Beaucoup. Ouvrir une entreprise. Des choses de femmes comme ça, bijoux, vêtements, tout ça. Ou bien être soignante. J'adore ça.
Vous parlez de votre propre statut, Sonia, de ce que vous voulez devenir. Est-ce que derrière aussi, il y a une très forte envie d'avoir des papiers ?
Ah ouais. Parce que je pense que si tu as tes papiers, tu vis mieux, plus que quelqu'un qui n'a pas ses papiers. Parce que si tu sors dehors, tu te dis, oh, la police ne va pas me rattraper, me renvoyer chez moi. Et on sort, mais on a peur. On a vraiment peur de que la police nous rattrape.
Parce que ça peut arriver à d'autres, c'est arrivé à d'autres ?
Oui. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup.
Contrôler, oui, sans papier, renvoyer.
Renvoyer chez eux. Beaucoup.
Donc, tant qu'il n'y a pas de papier, il n'y a pas de sécurité.
Ouais. Tu sors, mais tu te caches. Tu te caches. En fait, chez moi, il n'y a que moi qui n'ai pas de papier. En fait, ma mère, son mari est maoré. Après, ses enfants sont nés ici. Tous, ils ont des cartes d'identité. Mon frère aussi, il a eu sa carte de séjour. Et il n'y a que moi. Ici, si tu fais du papier, on voudrait carte d'identité, passeport. Et moi, je n'en ai pas ça.
Et c'est le cercle vicieux, puisque sans passeport, pas de papier.
On me dit à la maison, il faudrait que tu te maries avec un homme maoré. Et là, tu vas avoir des enfants maoris. C'est là que tu vas avoir des papiers. Et là, moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas me marier avec un homme juste pour avoir du papier, non. J'aime pas ça. Mais chez moi, on me met la pression. Cherche un homme, fais ça, ça me gêne. Parce que, tu vois, nous, les musulmans, tout ce qui compte, c'est de marier, faire des enfants et tout. Et tout. Et pour nous, maintenant, nous, on veut prendre nos responsabilités, avoir un travail pour nos enfants après. Et les hommes d'aujourd'hui, oh, sont pas comme avant. Nous faisons bébé, nous les seuls et tout. Alors, on n'a rien à donner à manger, on ne travaille pas. Mais si on travaille, là ça va. C'est pour ça qu'on veut apprendre. Parce que si tu peux écrire, parler le français, un jour tu auras un travail quelque part. Voilà, c'est pour ça que nous on vient ici.
Marie Balestero, vous êtes bénévole à la CIMAD. Quel regard vous portez sur cette situation, sur cette île de Mayotte ? C'est compliqué, il y a une forte migration. Et puis, il y a des situations très compliquées, encore une fois, de gens qui n'ont pas de papiers et qui n'ont pas la tradition des papiers non plus, qui n'ont pas la culture des papiers.
Globalement, c'est révoltant. C'est révoltant de voir que des jeunes qui sont ici sur le territoire depuis l'âge de 1, 2 ou 3 ans, qui peuvent avoir jusqu'à 19 de moyenne générale en terminale, n'arrivent pas à faire régulariser leur situation parce que leurs parents ne sont pas en situation régulière sur le territoire. Et c'est révoltant de voir que des personnes sont prêtes à risquer leur vie pour aller chercher le passeport qui n'est pas obligatoire pour déposer sa demande de carte de séjour ici à Mayotte, qui est rendu obligatoire par les autorités, malgré toutes les jurisprudences et malgré les condamnations réitérées de la préfecture. Donc c'est toujours un document qui est exigé et c'est un véritable frein à la régularisation. Donc d'après les conseillers d'orientation du vice-rectorat, il y aurait environ la moitié à deux tiers des bacheliers, en tout cas, ou des diplômés de Mayotte, qui ne pourraient pas poursuivre leurs études faute de régularisation, faute de papier. Et c'est une population qui s'est beaucoup investie à l'école pour pouvoir s'en sortir, parce que c'est la principale raison pour laquelle leurs parents sont venus à Mayotte. Et aujourd'hui, ces jeunes sont révoltés parce qu'on ne leur permet pas de poursuivre leurs études ici et de pouvoir continuer à vivre sur le territoire qu'ils ont toujours connu parce qu'ils ne connaissent absolument pas leur pays d'origine.
Est-ce que les Mahorais vous renvoient parfois des « mais nous, on compte aussi et nous, on n'a pas forcément accès à un certain nombre de choses » Est-ce que ça vient, ça, ou pas ?
Bien sûr, il y a des revendications des Mahorais qui sont originaires du territoire. Le droit doit s'appliquer pour tous. Il y en a marre qu'il y ait des législations spécifiques à Mayotte pour l'ensemble des droits. Mais il est évident qu'on n'a pas le droit de dire aujourd'hui les écoles devraient être réservées aux enfants maorais et pas aux enfants des migrants, parce qu'un enfant n'a pas à être la victime d'un système ou de choix de leurs parents. La loi est très claire. Un enfant qui est arrivé avant l'âge de 13 ans n'a pas eu le choix. Et donc la loi prend bien en compte cette problématique. L'école de la République se doit d'accueillir tous les enfants d'un territoire, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit la nationalité de leurs parents.
Si l'immigration est aussi difficile à assécher, c'est évidemment parce que Mayotte fait toujours partie de l'archipel des Comores. Et ça n'est pas parce que l'île est aujourd'hui devenue département français que les familles ne sont plus des familles, explique très bien Baptiste Cohen. Il est directeur général des apprentis d'Auteuil Océan Indien.
Les familles qui cohabitaient sur l'archipel, elles continuent d'exister. Elles avaient l'habitude de vivre ici et là. On a rencontré des familles qui vivaient sur l'archipel des Comores avant la départementalisation et qui savaient que des membres de leur famille habitaient sur une île, d'autres membres sur une autre île, et elles se rencontraient. Et en plus à ça s'ajoutent des habitudes de vie qu'on ne connaît plus du tout en métropole, c'est celles des enfants qui peuvent être éduqués par un autre membre de la famille, soit carrément par une autre famille proche à qui on confie l'éducation, et quelquefois même par solidarité, les familles étant très nombreuses. Donc on a connu des familles, et moi j'en connais très bien à La Réunion, qui se rappellent avoir vécu une partie de leur enfance sur une île et une autre partie sur une autre île de l'archipel. Ça faisait partie des habitudes. Donc aujourd'hui, ce n'est plus possible, c'est interdit. Donc il y a bien une rupture. Cette rupture, elle est forcément lourde pour les familles. Elle s'impose puisqu'il y a eu un choix démocratique et maintenant, il faut l'accompagner.
Oui, c'est interdit parce que ici c'est la France, oui, et qu'il y a la frontière à passer, quoi.
Voilà.
Et le type
de
séjour à venir.
Oui, il est interdit de passer comme on le veut. Il faut passer selon des règles et tout le monde ne dispose pas des autorisations administratives, des papiers, autrement dit, pour pouvoir passer. À ça s'ajoute évidemment l'eldorado économique, l'eldorado sanitaire, l'eldorado éducatif. Et il y a des familles qui sont prêtes à se séparer de leur enfant pour qu'il ait accès au capital, aux possibilités économiques de la France, parce que certains sont conscients que ça leur permettra peut-être à ces enfants de vivre quelque chose d'autre que ce qu'ils connaîtraient sur une autre île des Comores. C'est difficile à dire tout ça, parce que c'est des réalités humaines très, très, très douloureuses, et en même temps, cette douleur, elle fait partie de ce avec quoi vivent les familles dans la très grande pauvreté.
Mayotte, une jeunesse en péril, c'était un reportage de Béatrice Duguay avec Fabien Gosset à la prise de son. Mixage, Manuel Couturier. Avec nous ce matin, donc, pour poursuivre sur ce sujet, François Soulages, vous êtes président d'honneur du Secours catholique. Bonjour.
Bonjour.
François Soulages, vous êtes allé à Mayotte peu de temps avant la visite de François Hollande cet été et vous avez lancé un appel au président français avec les responsables d'autres ONG pour lui demander d'offrir un avenir à la jeunesse de Mayotte. Alors le président français, effectivement, lors de sa visite, a annoncé un plan, mais il n'a pas donné les détails de ce plan. Est-ce que ça vous satisfait malgré tout ?
Oui, ça nous satisfait parce que nous ne voulions pas que le président annonce le énième plan. Ce qu'il a annoncé, c'est la mise en œuvre d'un plan et nous avions, au cours de notre visite, insisté pour que ce plan soit mis en œuvre localement avec l'ensemble des parties prenantes, les associations, les autorités locales, les groupes de jeunes, les municipalités. Et c'est cela que le président de la République a retenu.
Alors ceci dit, vous devez avoir quelques idées quand même précises sur les mesures, sur les directions dans lesquelles il faut aller pour offrir un avenir, comme vous le demandez à cette jeunesse mahoraise.
Il y a trois grandes mesures que nous voudrions voir mettre en place. C'est d'une part une très forte amélioration de l'éducation parce que les jeunes de Mayotte ont un niveau d'éducation qui ne leur permet pas de suivre ensuite des études supérieures. Il faut savoir que 92% des bacheliers de Mayotte, quand ils arrivent en France pour poursuivre des études, échouent à la fin de la première année. Donc la question de l'éducation. La seconde, c'est la question de la santé. Parce que, et notamment de la prévention, parce que nous constatons à Mayotte une très forte progression du sida. Et là, nous avons une grande inquiétude sur l'éducation sanitaire et la prise en charge. Et puis, le troisième élément, c'est sur l'emploi, tout simplement, et donc les qualifications. Parce qu'il ne suffit pas qu'ils aient une formation primaire ou secondaire correcte, mais après, une formation professionnelle. Or, il n'existe quasiment pas de centre de formation professionnelle à Mayotte. Or, si on veut développer cette île, il faut développer l'agriculture. Et donc, il n'y a pas de centre de formation à l'agriculture. Les petits métiers, l'artisanat, la valorisation des produits locaux. Il n'y a aucune formation de ce type qui serait générateur d'emplois locaux.
Alors, on l'a entendu dans le reportage, la problématique à Mayotte, c'est une problématique de la jeunesse, mais c'est aussi une problématique de l'immigration, parce que cette île qui est maintenant devenue un département français, elle est très attractive pour toute la jeunesse comorienne autour, qui vit dans une grande misère et qui ne cesse de venir comme ça à Mayotte, dans ses kwassa-kwassa, de façon très dangereuse, pour venir s'installer sur l'île et vivre sans papier. C'est quand même un problème que vous prenez en compte de quelle façon, vous, en tant que ONG ?
Bien. Il faut d'abord régler de manière beaucoup plus claire la situation de ces enfants qui sont nés à Mayotte, puisque c'est la grande maternité, la plus grande maternité. Il y a 6000 naissances par an à la maternité de Mayotte, de parents qui sont comoriens, mais qui sont venus avec les kwassa-kwassa dans des conditions bizarres. Mais ces enfants sont nés à Mayotte. Donc ils sont quoi ? Ils sont français, ils sont comoriens. En fait, personne ne veut prendre position. Et donc, ils le disent d'ailleurs dans les reportages qu'ils ont suivi une scolarité, puisque jusqu'à 16 ans, la scolarité est obligatoire, qu'ils aient des papiers ou pas. Mais arrivés à 16 ans, ils sont totalement bloqués, puisque n'ayant pas de papiers, ils ne peuvent pas continuer. Or, ils sont nés sur le territoire français. Et aujourd'hui, la situation n'est pas du tout clarifiée. Et même s'ils voulaient poursuivre en métropole, ils ne peuvent pas aller en métropole parce qu'ils n'ont pas de papiers. Alors, évidemment, ce qu'on nous répond localement, c'est que si on améliore cette situation, on va faire l'appel d'air. C'est toujours la même réponse. Ce que nous répondons, c'est qu'effectivement, il faudrait que ces enfants qui sont nés de parents comoriens, qui pour une part sont repartis aux Comores, puissent trouver aux Comores un emploi qualifié. Car aux Comores, il n'y a aucune possibilité de formation. Donc on pourrait avoir à Mayotte des centres de formation de Comoriens qui retournent aux Comores formés. Et là, ils trouveraient du boulot à condition qu'on mette en place une collaboration régionale.
Ce qui n'est pas toujours facile avec les autorités comoriennes qui sont un peu en conflit, qui n'ont jamais reconnu le fait que Mayotte soit française.
C'est pire que ça. C'est que les autorités comoriennes ne veulent pas. C'est même pas. Elles n'hésitent pas, elles ne veulent pas.
Et la départementalisation, au fond, est-ce qu'elle n'accroît pas ce fossé entre Mayotte et les Comores ?
C'est le problème de la départementalisation, parce qu'aujourd'hui, les Comores, c'est un bout de la France et donc de l'Europe. Enfin, il faut savoir qu'à partir du 1er janvier prochain, le SMIC métropolitain sera appliqué aux Comores. Ce qui veut dire qu'on gagnera à Mayotte 7, 8, 10 fois plus qu'aux Comores. Donc on continuera à avoir un appel. Et donc pour nous, derrière le plan pour la jeunesse Mayotte, c'est la nécessité de mettre en place des plans de développement à Anjouan, dans les Comores. Anjouan, c'est l'île qui est la plus proche de Mayotte. Parce que sinon, l'appel d'air continuera. Et nous continuerons à avoir à Mayotte 40% des jeunes qui sont aujourd'hui sans papier.
La société mahoraise est une société aujourd'hui qui est pas mal bouleversée par tous ces changements, ces évolutions. C'est une société traditionnelle, musulmane, avec une tradition assez accueillante. Comment vous voyez cette évolution? On entend parler dans le reportage de violence maintenant chez les jeunes. C'est un peu inquiétant quand même tout ça.
Oui, je pense que la France est allée trop vite à Mayotte. Je vais vous donner un exemple à propos de la violence. Dans la tradition de la famille mahoraise, les adultes de la famille élargie avaient autorité sur les jeunes. L'oncle, la tante, le grand frère, tout le monde avait autorité sur les jeunes. Et le jeune se tenait à carreau parce qu'il était sous surveillance familiale. Aujourd'hui, avec le système judiciaire français, la surveillance familiale n'existe plus. C'est la justice de la République. Sauf que la justice de la République, elle est beaucoup plus lente, beaucoup plus complexe, et que beaucoup de jeunes savent qu'ils ne se feront pas prendre. Et donc la violence est liée aussi au fait que nous avons rompu des relations entre les individus qui étaient des relations traditionnelles et que nous ne sommes pas capables de les remplacer par une nouvelle tradition qui est la tradition républicaine dans un secteur où la violence, spontanée, était masquée par la structure familiale. Et la structure disparaît, la violence spontanée, elle apparaît parce qu'on est dans une zone de grande pauvreté, de grandes inégalités, dans lequel le conflit, il est nécessairement sous-jacent. Donc si on n'a pas les moyens de l'arrêter avant qu'il n'explose, et aujourd'hui nous n'en avons plus les moyens, eh bien, la violence explose.
Il va falloir faire preuve de pas mal d'imagination à Mayotte.
Oui, mais enfin, aujourd'hui, par exemple, il existe la justice des caddies, on ne les reconnaît plus.
Qui sont des médiateurs traditionnels.
Oui, mais même leur rôle de médiation est aujourd'hui contesté par les institutions judiciaires françaises, alors qu'on pourrait leur donner un vrai rôle de médiation. C'est une des propositions que nous sommes en train de mettre en avant. Nous avons réuni les caddies et les responsables des tribunaux. C'était un peu chaud au début, mais ils ont compris que peut-être on pouvait évoluer. Mais aller faire comprendre ça au ministère de la Justice ici à Paris, c'est pas gagné.
Merci François Soulages.
Merci.
La semaine prochaine, notre émission sera consacrée aux agriculteurs malades des pesticides. Interception est réalisée par Anne Lioro, assistée de Valérie Bourg, à la technique Clotilde Thomas. Dans quelques instants, le journal de 10h. À dimanche prochain.